Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 16 février 2026. En ce lundi 16 février, justement, on commence une nouvelle semaine. On la commence en douceur parce qu'aujourd'hui, les USA sont fermés, la Chine est fermée pour la semaine et en Europe, c'est les vacances de ski. Autant vous dire qu'on risque de s'ennuyer ferme. En même temps, chaque fois que j'ai cru qu'on allait s'ennuyer ferme, on a vécu des semaines de dingue. Et puis n'oublions pas que Trump a été étonnamment silencieux ces derniers jours. Il va bien finir par revenir faire son show et relever le niveau intellectuel de la géopolitique mondiale, puisque visiblement, si on en croit les chiffres qu'on nous donne à bouffer, le soft landing n'est plus une utopie, la baisse des taux non plus. Si la semaine dernière, vous n'étiez pas sur une île déserte coupée du monde dans un hôtel qui n'avait pas le Wi-Fi avec un seul bateau qui faisait l'aller-retour jusqu'à la terre ferme une fois par semaine, vous devez forcément savoir que nous attendions des chiffres économiques qui étaient les plus importants, des plus importants. Le premier, c'était les chiffres de l'emploi du mois de janvier, les non-farm payrolls. On en a déjà parlé dans cette chronique, mais comme ça a été publié mercredi passé, il est plus que probable que nos mémoires à court terme d'investisseurs soient déjà passées à autre chose. Je vais donc y revenir très brièvement. Non, parce qu'entre vous et moi, j'imagine bien qu'on est déjà tous passés à autre chose, mais j'aimerais quand même qu'on se souvienne qu'une minute et 7 dixièmes après la publication des NFPs mercredi dernier, à 14h31, on a immédiatement admis le fait que la Fed ne baissera pas les taux avant juillet, et encore, c'était dans le meilleur des cas. On attendait donc 70 000 créations d'emplois. Les experts et autres économistes étaient méfiants parce que quelques jours avant, on nous avait annoncé 100 000 licenciements en janvier, un des pires mois de janvier depuis pas loin de 20 ans. Donc les stars de l'économie mondiale étaient plutôt méfiants et ces fameuses 70 000 créations d'emplois étaient officieusement revues à la baisse. Et dans les bars de Wall Street, après le 12e whisky, on pensait plutôt à un chiffre comme 55 000. Le tout saupoudré d'un taux de chômage qui grimpait, ce qui aura eu le mérite de donner de l'espoir côté baisse des taux. Bon, vous le savez tous, le chiffre est sorti à 130 000 avec cerise sur le gâteau, un taux de chômage qui baisse. En temps normal, j'aurais eu tendance à dire que les économistes ont été exceptionnellement nuls. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même un peu l'impression que les chiffres des NFP annoncés par le BLS mercredi ne collent pas avec la réalité qu'on veut bien nous vendre. C'est un peu comme si on leur faisait dire ce qu'il fallait pour qu'au fond de nous, on pense que l'économie est forte et que tout ce que fait le gouvernement est juste, même plus que juste, diaboliquement brillant. Pourtant, si l'on fait fi des chiffres officiels du BLS, qui, je le rappelle, est un département qui dépend du gouvernement américain, Trump a même déjà viré l'ancien patron et il est en train de jouer aux chaises musicales pour trouver un nouveau boss qui sera suffisamment efficace, tout en restant malléable à souhait. Donc, si l'on fait fi de ces chiffres et que l'on écoute le bruit qui vient des States, ça n'a vraiment pas l'air aussi magique que ce qu'on veut bien nous dire. Mais peu importe, le marché n'aime pas trop se poser de questions quand on lui donne ce qu'il veut. Pour le moment, et après les NFP, le message frontal était excellent. L'économie est forte, l'emploi est fort, le message est passé, on a bien compris, même si les données de l'emploi dans le secteur privé disent le contraire. Bref. On peut douter, on peut mettre en doute même, on a le droit de penser qu'on se fout de nous, mais au fond, on a retenu qu'une seule chose, tout va bien, et la méthode Trump fonctionne. Et puis c'est tout. Du coup, après les annonces de mercredi, on a commencé à se poser la plus évidente des questions. Est-ce que la Fed doit vraiment baisser les taux avec une économie aussi forte ? Mercredi soir, les experts pensaient que non, et la Fed ne devait rien faire avant juillet, en tous les cas. Mais ça, c'était mercredi soir. Vendredi après-midi, 14h32, le chiffre est tombé, 2,4% depuis l'époque où Powell nous avait dit que l'inflation était sous contrôle et transitoire. L'inflation nous pourrit la vie. On l'a fait baisser, mais depuis plus d'un an, elle s'accrochait dans la zone des 3%, refusait d'aller chercher la cible annoncée par la Fed à 2%. Et là, tout d'un coup, le BLS, encore lui, nous annonce un 2,4% annualisé, clairement plus bas que prévu. Et le core inflation, celui que la Fed regarde vraiment, hors énergie, alimentation, ressort à 2,5%, son plus bas niveau depuis 2021. Ce qui est intéressant, c'est pas seulement le chiffre, mais plutôt ce qu'il raconte. Il raconte que les loyers sont en baisse, c'est la donnée qui pèse un tiers de l'indice. L'énergie est en baisse également, avec un pétrole qui n'a cessé de monter en janvier. Des tempêtes de neige et un froid glacial aux USA, ce qui a l'air d'être assez logique, comme si la logique existait encore. Moi, j'ai pas du tout l'impression qu'on nous prend pour des cons, et c'est toujours ça de gagner. En résumé, selon les suppos de Trump, les prix des voitures n'augmentent pas, le prix des œufs est en baisse, et même si ce matin on apprend que le prix du bœuf est en train d'exploser, ça n'a évidemment pas d'incidence sur le coût de la vie, puisque l'Américain moyen est vegan, tout le monde le sait. Mais bon, on va pas polémiquer. Après tout, le gouvernement ne ment jamais, et ce serait étonnant que le président mette la pression sur qui que ce soit, c'est pas son genre. Alors vendredi, les marchés ont fait ce que les marchés font toujours, ils ont commencé à calculer la prochaine étape. Non, parce que si l'inflation ralentit, si elle se rapproche des 2%, et si dans le même temps la croissance tient, et elle tient, puisque Trump parle de 15% de croissance à venir, et que l'emploi cartonne, c'est l'évidence même, la Fed peut couper les taux tant qu'elle veut. Oui, je sais, c'est la réflexion inverse de celle de mercredi soir, mais je vous l'ai dit et répété, en ce moment, nous avons une vision à 24 heures, au grand maximum. Il faut rester vigilant, actif et souple sur ses appuis pour rapidement changer de direction. En résumé, après les chiffres de l'emploi de mercredi, la probabilité d'une baisse des taux en juin était de 17%. Vendredi soir, les probabilités de baisse de taux en juin explosaient au-dessus des 80%. Ça fait vraiment plaisir de voir que les économistes sont réactifs et sont prêts à tourner la veste à la vitesse de la lumière sur un seul chiffre, pas toujours très crédible et ni très représentatif de la vie de tous les jours. Et puis, ça fait surtout plaisir de voir que personne ne remet en doute la qualité ou la véracité de ces chiffres et que personne ne fait la liaison avec le fait que ces chiffres s'alignent parfaitement, comme par hasard, avec le plan de Donald Trump, qui, je le rappelle, est en difficulté dans les sondages et ne peut pas se permettre de perdre des élections de mi-mandat. Il n'y a pourtant pas besoin d'être prix Nobel d'économie pour comprendre et voir que le décor macro reste quand même étrange. La croissance du quatrième trimestre est solide, on est à plus de 3,7%, Scott Bessent parle de 5,2% à venir et Trump est en plein délire comme d'habitude, mais malgré les chiffres de la semaine dernière, pour autant qu'ils soient réels, je rappelle pour mémoire que le BLS est expert pour changer d'avis et corriger les chiffres des trois mois précédents, le marché de l'emploi tourne au ralenti quand même. N'oublions pas que 130 000 postes ont été créés, mais que 100 000 personnes ont perdu leur. Et puis si on regarde sur les 12 derniers mois, c'est 15 000 jobs créés par mois en moyenne. On a connu des économies asthmatiques fonctionner mieux que ça. La consommation tient, mais sans euphorie. On a vu sur les ventes de détail que l'Américain est quand même de plus en plus proche de ses sous et que la confiance du consommateur est proche de zéro. Nous sommes donc dans un monde où l'économie avance, l'inflation recule, les taux sont encore élevés et les tarifs douaniers annoncés en grande pompe n'ont pas mis le feu à l'inflation comme c'était prévu. Tout ça remet en question le scénario de l'an dernier quand on nous disait que les tarifs allaient tout faire péter à la hausse. Finalement, la hausse annoncée s'est concentré sur certains secteurs, pas sur tous. Et si vous n'avez pas acheté de machine à laver en 2025, apparemment, vous avez moins senti l'inflation des tarifs. Ça demanderait vérification, mais on n'a pas le temps de vérifier. Tout va bien trop vite. Ce qui est fascinant, c'est le narratif politique qui est derrière. L'administration explique que la croissance n'est pas inflationniste si elle s'accompagne d'une augmentation de l'offre. Si tu produis plus, tu investis plus, tu augmentes ta capacité, tu évites que la demande se fracasse contre un mur. La vraie question, c'est de savoir si ça tiendra sur le long terme. Et puis, il faudra corréler les chiffres avec ceux du PCE qui sortiront ce vendredi, le chiffre que la Fed regarde vraiment. Il est peut-être encore un peu tôt pour ouvrir le champagne, mais on sent qu'il y a comme une envie de vouloir croire au soft landing, si les données sont vraies, si on nous dit toute la vérité, rien que la vérité. Depuis vendredi soir, nous sommes passés d'un marché obsédé par l'inflation hors de contrôle à un marché qui commence à se demander et si on était en train de réussir l'atterrissage. Et si juin devenait vraiment le point de départ d'un nouveau cycle de baisse des taux. Le plus incroyable, c'est que vendredi matin, c'était pas du tout le même scénario. Au fond de moi, loin de moi l'envie d'être complotiste, mais je suis convaincu qu'on a bien arrondi les angles et qu'on sait comment faire plaisir à Wall Street. Wall Street qui est suffisamment naïf pour croire tout ce qu'on lui raconte sans trop se poser de questions pour l'instant. Ce matin, le Canada est fermé, la Chine est fermée, et pour toute la semaine, les USA sont fermés, pour cause de President Day, Taïwan est fermé, et la Corée du Sud est fermée. Autant vous dire que ça ne sera pas la séance du mois. Par contre, le Japon est ouvert, le Nikkei est légèrement en hausse après avoir ouvert en baisse, on parle beaucoup du PIB du quatrième trimestre qui a déçu, croissance à 0,2% sur un an, alors que le marché attendait 1,6%, autant dire qu'on était parti pour un jogging et qu'on s'est retrouvé à marcher avec un sac de pierre sur le dos. Les entreprises investissent peu, les exportations sont molles, la consommation privée manque d'énergie. Même les mesures de relance lancées fin 2025 par Tokyo n'ont pas vraiment réveillé la machine. C'est peut-être un peu tôt, il faut le reconnaître. La bonne nouvelle, si on a un peu plus à une bonne nouvelle, c'est que cette faiblesse réduit la probabilité de nouvelles hausses de taux par la Banque du Japon. Mais attention, l'inflation, elle, reste collante. Du côté des matières premières, le pétrole est à 62,75, l'or est à 5008, l'argent est à 75,77, le rendement du 10 ans est à 4,05 et le bitcoin est à 68 400. Warner Bros. Est en train de causer de nouveau avec Paramount parce que des milliards, ça reste quand même des milliards. Pour le reste, la journée risque bien d'être une de ces journées où on aurait mieux fait de rester couché. Mais au moins, l'inflation américaine, qui est enfin sous contrôle, quand on lui fait dire ce qu'on a envie qu'elle dise, devrait nous permettre de bien commencer la semaine, puisqu'encore une fois, tout va bien. Belle journée à tous, et même si au vu du déluge qui nous tombe sur la figure, c'est pas gagné. Et on se voit demain pour la suite.